Alors, nous, je crois que les enfants restent, c'est ça? Oui, il y a des petites choses là au fond, voilà, pour les aider à patienter en ce premier dimanche, ou deuxième déjà, des vacances. Donc, nous avions commencé une petite série sur le sermon sur la montagne. Nous l'avions interrompu pour le temps de Pâques, jusqu'à, en tout cas, autour de Pâques, la semaine passée déjà, nous étions encore dans Pâques. Avec la seconde partie de 1 Corinthiens 15. Et donc là, nous reprenons notre petite série tout doucement sur le thème du pardon que nous allons faire en deux fois. Jésus, juste après avoir parlé de la prière en Matthieu 6, il a déjà parlé du pardon dans cette prière avec ne nous laisse, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et tout à la fin, donc. Matthieu 6, 14 à 15, il reparle du pardon. Et donc, il y a le pardon que Dieu nous accorde et le pardon que nous accordons à notre prochain. Aujourd'hui, ce thème, nous allons en parler du pardon que Dieu nous accorde. Mais je vais quand même lire ces versets, je vais ajouter quelques versets après du psaume 32. Si vous pardonnez aux hommes vos fautes, leurs fautes plutôt, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et puis ce passage que nous allons aussi rappeler dans la méditation, ces premiers versets du psaume 32, c'est David qui exprime sa repentance, son repentir. Heureux, et ça commence par heureux, heureux, heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Parce que tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main pesait sur moi en effet. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. L'été, c'est pas rien, hein, dans ces régions-là. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Seigneur, ouvre pour nous ce saint livre et applique-le à nos cœurs par ton Esprit Saint. Amen. Alors, si on pose la question à l'homme de la rue, ou la femme de la rue, sur le pardon, eh bien, les gens ont tendance à dire, je n'ai pas besoin de pardon. Hein. Qu'est-ce que c'est que le pardon? J'en ai rien à faire, hein, rien à cirer. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Qu'est-ce que Dieu pourrait me reprocher? Hein, je fais de mon mieux, je suis sincère. Regardez ceux qui vont à l'église, ils ne font pas mieux, enfin voilà. Hein. Toute cette ribambelle de choses qu'on entend depuis si longtemps. Et moi dans tout ça, hein, est-ce que j'ai besoin du pardon, hein, moi en tant que chrétien? Alors oui, il faut toujours répondre oui, parce que vous et moi, nous avons transgressé le premier commandement, hein, le plus grand commandement, hein, sans le savoir bien souvent, et cela pendant des décades, hein, et c'est vrai pour tous les hommes. Durant 30 ans de vie d'adulte responsable, durant 30 années de braves gens, on va dire, hein, pas si mauvais que ça, entre guillemets, eh bien, nous avons amoncelé, hein, plus de 10 000 infractions, hein, sans compter d'autres oublis, d'autres faiblesses. Hein. Le plus simplement du monde, on a fait tout ça, en transgressant quotidiennement le plus grand commandement, pour ne pas dire les deux plus grands commandements mentionnés par Jésus, par exemple en Marc 12, 30, 28, 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, hein, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, voilà de quoi régler, hein, le compte à cette petite idée qui vient dans notre cœur parfois, hein, je n'ai rien fait de grave. Hein. 10 000 infractions. Le péché est la transgression de la loi, dit la Bible. C'est une définition claire, simple, précise. 1 Jean 3, 4. La loi est sainte, juste et bonne, Dieu est saint. Hein. Et il n'y a point d'homme qui ne pêche, reconnaît Salomon hein, dans l'Ecclésiaste. Rien de bon n'habite en moi, je suis vendu au péché, dit Paul. Voilà, juste pour dresser le tableau, hein, brièvement. L'homme va et vient, hein, l'homme travaille, il mange, il boit et il dort, mais il ne vit pas pleinement, hein, tant qu'il n'a pas été réconcilié avec Dieu, tant qu'il n'a pas retrouvé cette communion vivante avec le Dieu vivant. L'homme cherche la plénitude de vie dans tant de choses, pour compenser ce vide, hein, dans des choses légales ou illégales, hein, dans des choses morales, dans des choses immorales, dans des choses amorales, hein, peu importe, hein, dans toutes les directions. Mais l'homme reste un débiteur insolvable. Il n'y a pas de paix pour le méchant, dit la Bible. Il n'y a pas aussi de pardon, hein, pas de paix, pas de pardon, sans effusion de sang, hein, dit Dieu, hein, sans sacrifice expiatoire. Et c'est par sa mort sur la croix que Jésus-Christ a pu expier nos fautes. Hein. Il est notre rançon, il est notre paix. Et Dieu a fait la réconciliation. La réconciliation est possible avec lui et entre les hommes, grâce au sacrifice de la croix. Alors, on en vient à une série de questions, une fois qu'on a énoncé, rappelé ça brièvement. Au fait, qu'est-ce que le pardon ? Alors, le mot, hein, signifie, le mot grec en tout cas, signifie, il y a l'idée de libérer quelqu'un de son fardeau, mais aussi d'éloigner quelqu'un d'une charge, d'un fardeau qu'il portait. Faire disparaître même cette charge. Hein. Mettre de la distance entre cette charge, ce fardeau et la personne. Et ça rejoint hein, très bien ce que dit le psaume 103, verset 12, qu'on va rappeler tout à l'heure. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur éloigne de nous nos transgressions. Et le pardon, donc, apparaît comme l'acte de Dieu qui met fin hein, à la situation malheureuse créée par le péché de l'homme, par notre péché. Hein. Une situation offensante pour Dieu, mais aussi une situation accablante pour l'homme. Et le pardon, c'est Dieu qui éloigne le péché du pécheur repentant. Le pardon est la réponse divine, la seule réponse possible, la réponse divine au mal, au péché. Hein. Ce péché qui éloigne l'homme de son Créateur. Alors, une autre question, mais quand sommes-nous en possession du pardon ? Question toute simple. Il ne nous est jamais dit de sentir que nous sommes pardonnés dans la Bible. Il ne nous est jamais dit d'attendre un pardon qui viendrait peut-être un jour de façon hypothétique si on fait ci, si on fait ça. Non. Il ne nous a jamais dit de sentir, il nous a dit de saisir ce pardon. Il ne nous a jamais dit d'attendre, il nous a dit de prendre ce pardon. Hein, avec nos mains vides, de le prendre tel que Dieu nous l'offre. Et donc, ce psaume 32, dont j'ai relu simplement les premiers versets, nous disent qu'il ne sert à rien d'attendre. Hein. Le temps qui s'écoule n'arrange rien. Hein. David avait attendu, il avait un fardeau très lourd sur sa conscience, hein, avec le meurtre d'Uri, hein, le mari de Bathsheba, et l'adultère avec Bathsheba, et le temps n'avait rien arrangé. Et il raconte dans ce psaume toutes sortes de problèmes physiques qu'il a eus, hein, bien que le mot psychosomatique n'avait pas encore été inventé, en tout cas en hébreu. Eh bien, David raconte comment sa conscience torturée aboutit à des symptômes physiques alarmants. Hein. Mes os se consumaient. Voilà, on voit bien un brasier hein, qui consume hein, même les choses et qui n'arrête pas de consumer. Les os se consumaient. La partie la plus importante, enfin, ce qui structure ma vie, hein, se consumait. Je gémissais toute la journée. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je l'ai souligné dans la lecture tout à l'heure. Toutes sortes de maux, de troubles physiques alarmants, hein, de troubles psychosomatiques. Le temps n'arrange rien. Et c'est le sang du Christ qui peut couvrir tous ces péchés, qui peut apporter la réconciliation. Dieu s'attend à ce que nous croyions en ses promesses, que nous honorions ses promesses en croyant en ses promesses et en agissant selon ses promesses, en nous confiant dans ce pardon qui a été rendu possible à la croix. Il veut que nous le fassions non pas demain ou peut-être un jour, mais ici et maintenant. Et dans le psaume 32, il est dit « J'avouerai mes transgressions » et plus loin, trois petits points, « Et tu as effacé la peine de mon péché. » « J'ai péché contre l'Éternel, dit David en 2 Samuel 12, 13. » Et le prophète lui annonce « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Donc Dieu attendait fébrilement, on peut dire, que David avoue ses transgressions pour les lui pardonner. Il ne veut pas le mettre sur le grill inutilement. Il veut que tout cela cesse et qu'il soit libéré de ce fardeau en acceptant ce pardon. Alors, on peut dire, on voit dans ces deux versets la promptitude des réponses de grâce du Seigneur. C'est comme s'il se tenait à tout près, prêt à nous accueillir à nouveau. Alors, pourquoi tardons-nous? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le grand verset d'1 Jean 1, 9. Dieu est fidèle à ses promesses. Il est juste. La justice a été accomplie à la croix par le sacrifice expiatoire du Christ. Et Dieu est fidèle et juste. Il peut nous pardonner. Il veut nous pardonner. Ce pardon gratuit nous est ouvert et offert. Et immédiatement, bien sûr. Immédiatement. Dieu, à nouveau, je le redis, Dieu ne veut pas nous faire attendre inutilement. Il nous aime. Donc, tout pécheur repentant est en possession du pardon dès qu'il s'en empare avec reconnaissance et avec foi. Alors, nous marchons donc par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par les sentiments. Nous marchons par la foi et non pas par les émotions. Ça, c'est un grand thème de la vie chrétienne et quelque chose qu'on a besoin d'approfondir. Toute prière de confession, toute prière d'humiliation s'achève par une affirmation claire du pardon, de son pardon et une appropriation de sa grâce. Alors, seul Dieu pardonne. Jésus-Christ a dit « Je te pardonne, tes péchés sont pardonnés » puisque Jésus, notre Seigneur est Dieu. Mais chaque croyant a le privilège d'annoncer, de témoigner que Dieu pardonne à cause du Christ. Et Actes 4, 12 le dit bien, il n'y a aucun nom sous le ciel par lequel nous puissions être pardonnés, sauvés. Dieu ne nous accuse pas d'être nés pécheurs. Mais chaque croyant a le privilège, mais il ne nous accuse pas d'être nés pécheurs, mais bien de vouloir le rester, de vouloir vivre, continuer à vivre de façon indépendante de Dieu, sans Dieu, hors de Dieu, loin de Dieu. Et Jésus dit, vous ne voulez pas venir à moi pour obtenir la vie, pour avoir la vie. C'est une imploration, quelque part, mais c'est aussi un constat. Et c'est l'homme qui ne veut pas, c'est l'homme qui ferme la porte, c'est pas Dieu. Jean 5, 40. Alors, pour goûter la joie libératrice du pardon, il faut aussi le rejet, l'abandon du péché. Ça, c'est un grand thème aussi là-dessus, dans la Bible. Le dégoût de soi peut être le commencement d'une grande bénédiction spirituelle. Et on avait vu il n'y a pas longtemps, avec Anne Ruholt, la parabole du fils prodigue, j'y reviens pas, étant rentré en lui-même, le fils prodigue, voilà, va s'est dit, je vais revenir chez mon père. Luc 15, 17, 20. La reconnaissance et l'abandon du péché, le pardon n'exclut pas, il faut quand même le dire aussi, en certaines circonstances, que nous ayons à supporter les conséquences de nos inconséquences. Et en 2 Samuel 12, 13, 14, David est pardonné, hein, dit le prophète, mais son fils, hein, va mourir. Les lois humaines gardent autorité, hein, et pouvoir sur le pécheur repentant. Hein. Si nous avons des dettes, eh bien, il faudra les rembourser. Hein. Des peines de prison, il faudra les effectuer. Des torts, il faudra les réparer, etc. etc. Alors, comment réagir à l'heure, autre question importante, comment réagir à l'heure où tel péché déjà confessé, hein, premier mouvement, et abandonné, hein, nous revient en mémoire. Que faire, hein? Alors, c'est quelque chose qu'on peut vivre facilement en tant que chrétien. Hein, et ça vient souvent à contre-temps, hein, toujours à contre-temps, quand on ne s'y attend pas. Hein, et ce fait nous culpabilise, nous met mal à l'aise, nous laisse dans la confusion spirituelle. Hein. Alors, c'est bien de rappeler qu'il nous appartient à ce moment-là de discerner immédiatement une attaque spirituelle, hein, du malin. Hein. Et c'est important de le dire. Hein. Ce rappel, hein, de nos fautes, hein, n'est pas anodin. Hein. Souvenons-nous que l'ennemi travaille à nous freiner, hein, à nous entraîner loin de Dieu. Hein. Et il le fait souvent à contre-temps, hein, au moment où nous nous sentons bien rassurés, etc. Hein. Et donc discernons, hein, d'où vient cette culpabilisation. Hein. Ce rappel, on va dire, ce rappel de nos fautes ne vient pas du Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit ne revient pas sur nos fautes. Hein. Dieu ne se souvient pas de nos fautes confessées. Et donc ça ne peut pas être l'œuvre du Saint-Esprit. Ne tombons pas dans le piège de confesser une seconde fois des fautes qui ont été confessées et pardonnées. Hein. Car alors, pareille attaque se reproduira pour la même faute passée. Hein. Et la troisième confession sera-t-elle la bonne ou la quatrième ou la cinquième? Non. C'est un peu comme dans les films, hein, quand on voit la police dire de ne pas donner de rançon. Hein. Les malfaiteurs qui, voilà, ne pas céder au chantage. Parce qu'il y aura une autre fois encore. Et on ne sait pas si les pauvres parents qui ont perdu leur enfant le retrouveront. Hein. Et parce que ça ne sert à rien de céder au chantage. Ne cédons pas non plus à ce genre de manipulation, hein, qui vient du mauvais. Hein. Ne confessons pas une faute déjà confessée. Nous n'engagerons pas un quelconque dialogue avec le mal. Nous refuserons cette fausse culpabilité fondée sur rien. Nous proclamerons au contraire la fidélité du Seigneur. Nous proclamerons sa bonté renouvelée. Nous exalterons notre maître. Et déjà, l'adversaire a fui. Résiste au diable et il fuira loin de vous. Dit Pierre, hein, Pierre 5, 9, et Jacques dit à peu près la même chose. Alors, un autre cas de figure, c'est si tel péché non confessé vient à notre mémoire. Ça, c'est autre chose. Hein. Alors, je crois que la bonne réaction, là, c'est de pas faire la sourde oreille. Au contraire, de bénir Dieu. Hein. De bénir Dieu, d'agir par son esprit pour nous amener à clarifier une situation non réglée. Hein. Peut-être que Dieu avait déjà parlé, mais qu'on n'avait pas écouté déjà. Mais bon, là, les choses sont encore plus claires et c'est le moment de clarifier les choses. Hein. Ça peut venir des années après. Hein. Et parfois, Dieu met vraiment la pression sur telle ou telle chose. C'est le moment. Hein. Je me souviens quand on est rentré en fac de théologie, lors de notre premier examen, au premier semestre, la femme du doyen, Mme Lorraine Winston, elle rappelait chaque année la même chose, mais quand même, c'était important pour nous. Elle rappelait que des anciens étudiants, des fois 10 ans après, renvoyaient leur diplôme en disant « J'ai triché à tel ou tel examen. Depuis, je n'ai pas la paix. Je n'aurai la paix qu'en vous envoyant, en confessant ma faute et en vous envoyant mon diplôme. Faites ce que vous voulez. » Et bien sûr, ça nous a marqué, ça nous a profondément marqué. Hein. Ça a été formateur d'entendre ça. Mais c'est vrai, hein, que ce genre de choses peuvent arriver. Hein. Alors, pratiquons à ce moment-là, Jean, toujours 1 Jean, 1, 9, hein, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Hein. Vivons aussi la réparation, si c'est nécessaire, la restitution, hein, si c'est nécessaire, comme il est dit en nombre 5, 5, 7, etc. Hein. Alors, nous faisons, pourquoi nous faisons ça? Non pas parce que nous avons peur de perdre notre salut, hein, je ne le crois pas, hein. Notre communion avec Dieu est suffisamment établie, hein. Mais nous le faisons pour jouir d'une joie plus profonde. C'est beaucoup plus motivant, hein, de penser ça. Nous le faisons pour jouir d'une joie plus profonde, d'une pleine communion, hein, avec le Seigneur. Et certainement aussi d'une bénédiction renouvelée sur notre vie, sur notre service. Et il est bon de rappeler à ce propos qu'aucune faute n'est trop grave, ni trop ancienne, et qu'il ne puisse être pardonnée. Si vos péchés sont comme le cramoisi, on aime bien le rappeler ça, Ésaïe 1, 18, 19, cramoisi c'est une couleur éclatante, rouge, vif, hein, indélébile quelque part, ils deviendront blancs comme la neige. Et il y a ce beau cantique, hein, blanc, plus blanc que la neige. Alors le péché pardonné, je le rappelle comme j'ai dit tout à l'heure, en allant plus loin, le péché pardonné, et il y a plusieurs qualificatifs, hein, pour dire ce que le Seigneur en fait. Le péché pardonné est éloigné, on l'a vu en psaume 103, verset 12. Le péché pardonné est effacé, psaume Ésaïe 44, 22, j'effacerai vos péchés. Le péché pardonné, il est dit qu'il n'existe plus, hein, dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 23, hein, Jérémie 50, verset 20, la liste est fastidieuse. Il est jeté au fond de la mer, c'est l'expression que je préfère. Il est jeté au fond de la mer. Il est mis sous ses pieds, Michée 7, 19. Il est jeté derrière son dos, Ésaïe 38, 17. Dieu ne se souvient plus des péchés confessés, Ésaïe 43, verset 25. La Bible, Saint Génie, a trouvé des expressions similaires, mais chaque fois plus fortes, chaque fois plus profondes, qui s'impriment dans notre esprit pour vraiment exprimer l'effet, hein, du pardon. Le péché est couvert aussi. Il est dit dans le psaume 85, verset 3, etc. Alors, comment être sûr de son pardon, hein? Autre question. Sûr, certain. Hein? Alors, j'ai déjà donné quelques touches dans cette direction. Hein? J'ai déjà donné quelques idées. Hein? Certains affirment être certains de leur pardon parce qu'ils ressentent de la joie. Certains affirment être certains de leur pardon parce qu'ils ont une paix nouvelle en eux, voire parce qu'ils vivent un exaucement imprévu, ou qu'un concours de circonstances est arrivé dans leur vie et quelque chose d'inopiné qui leur montre qu'ils sont pardonnés. Alors, voyons un peu ce qu'il en est de tout ça, hein. Voyons cela en détail. Cela, c'est certes réconfortant, hein, d'avoir un sentiment de joie et de paix. Hein. Mais s'en tenir à cela pour être sûr de son pardon signifierait que notre pardon découle de nos sentiments, découle de nos émotions du moment, voire de nos états d'âme. Et on sait que les états d'âme, hein, c'est vraiment flottant, c'est de la vapeur, c'est des bulles. Des bulles de savon, c'est rien du tout. Hein. Et nos états d'âme sont agités, variables comme les flots de la mer. Hein. Et puis, la parole de Dieu et notre expérience confirment aussi que certains exaucements peuvent provenir d'ailleurs que du trône de Dieu. Et donc, la certitude du pardon ne doit pas prendre pied, hein, dans ce domaine-là. Hein. Il y a des exaucements inopinés, il y a des concours de circonstances, fruits du hasard, entre guillemets, mais qui ne veulent rien dire en soi, en tout cas. La certitude du pardon prend pied sur ce que Dieu dit. Elle s'appuie sur ce que Jésus-Christ a accompli en notre faveur. Voilà le fondement de notre pardon. Tout peut bouger, tout peut flotter, tout peut changer. Ça demeure un fondement inébranlable. Je vous écris, mes enfants, petits-enfants, dit l'apôtre Jean, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. À cause de son nom. 1 Jean 5, 12. Et il le dit de différentes façons tout au long de cette première épître. Le croyant entre dans le repos de la foi, hein, et s'y maintient par la foi. Alors aujourd'hui, c'est le 1er mai, un grand repos, hein, mais c'est, nous pouvons penser, hein, surtout au repos qui, dans les Écritures, hein, s'appelle le repos de la foi. Hein. Nous pouvons nous reposer, hein, de nos œuvres mauvaises, nous pouvons nous reposer de tous nos efforts humains pour tenter de nous sauver par nous-mêmes, parce que à la croix, le Christ a tout accompli, il a apporté un salut totalement achevé. Hein. Nous ne pouvons rien y ajouter. Hein. Nous mettons notre foi dans ce salut, et nous pouvons nous reposer, trouver la vraie paix, hein, dans ce salut accompli par quelqu'un d'autre, hein, que nous. Hein. Et donc, le pardon est réalisé par le Christ sur la croix, ne l'oublions pas. Et ce pardon est au bénéfice de l'être humain dès sa conversion à Jésus-Christ. Nous ne l'oublions pas non plus. Et donc, le chrétien, c'est celui qui peut dire « Je suis réconcilié avec le Christ ». Non pas un jour, peut-être, après toute une vie d'efforts chrétiens, je serai peut-être un jour réconcilié. Non, je suis réconcilié avec le Christ. Et je vis en communion avec le Dieu vivant. Deuxième composante de la vie chrétienne. Alors, faisons, et je conclue, hein, faisons l'expérience de ce pardon si nous ne l'avons pas fait. Hein. Faisons l'expérience de ce pardon de Dieu, hein, de ce pardon gratuit, profond, efficace, suffisant. Vivons dans la reconnaissance de ce pardon toute notre vie. Hein. Accrochons-nous à ce pardon, hein, si c'est nécessaire parfois. Mais surtout aussi, explorons toute notre vie par les Écritures, par l'étude, par l'expérience, explorons la profondeur de ce pardon. Voyons les multiples facettes de ce joyau parfait qu'est le pardon de Dieu. Nous voyons une facette, on est déjà ébloui, mais il y a toutes sortes de facettes. Faisons-en le tour pour explorer la profondeur de la grâce de Dieu. Et soyons émerveillés sans cesse de la grâce de Dieu qui s'est penchée sur un pécheur tel moi, tel que je suis. Amen.